notre part. La première omission, c'est, voilà, je prie, je suis sur mon petit banc de prière, je suis chez moi, je suis à la chapelle ou ailleurs, et je ne me laisse pas aimer. Effectivement, quand on se remémore la citation de notre mère Sainte Thérèse, l'oraison n'est rien d'autre qu'un échange d'amitié avec celui dont nous savons aimer. Prenons au sérieux cette définition, parce que nous avons tendance à venir prier en faisant abstraction de ce que nous vivons. Nous mettons bien en place ce que Jésus nous demande en Matthieu 6:6, pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Très bien, ça, nous le faisons volontiers. Mais Dieu attend que nous venions à lui comme les pécheurs que nous sommes. Nos vies ne sont pas parfaites, loin de là. Et pourtant, Jésus nous a bien dit, nous a bien promis en Jean 6, 37, « Quiconque vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » C'est une citation que vous retrouvez à la page 16. « Quiconque vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. » Allons à la prière, pardonnez-moi un petit peu la comparaison, allons à la prière comme nous allons à la messe. Nous avons été à la messe ce matin à 11h15 et je pense que, comme vous avez pu le constater, en entrant dans la chapelle, en entrant dans l'église, il n'y a pas de vigile à l'entrée. Il n'y a personne pour filtrer les fidèles. Tous, nous sommes pécheurs et s'il fallait attendre que nous soyons dignes pour venir prier, dignes pour venir communier, alors personne ne pourrait se tenir devant Dieu dans la prière et personne, à commencer par votre serviteur, ne communierait. Bien sûr, cela n'est pas une invitation à la légèreté. D'ailleurs, le bienheureux Vladimir Gika a ce petit mot que je trouve savoureux, lui qui nous dit « Quand on vit au petit bonheur, on s'attire les plus grands malheurs. » Et il y a toujours des choses à remettre en ordre dans nos vies. Mais cela signifie que le péché n'est jamais un obstacle à celui qui veut revenir à Dieu. Quiconque vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Et Jésus n'a rejeté personne dans les évangiles, personne qui venait à lui en reconnaissant son péché ou en reconnaissant son indignité ou en voulant le suivre pour devenir son disciple. Dieu nous accueille toujours à bras grands ouverts quand nous souhaitons nous tenir devant lui sous son regard en vérité. Et la prière est bel et bien une invitation à se laisser regarder, à se laisser aimer par notre Seigneur. « Laisse-toi aimer, c'est ta vocation », écrivait sainte Élisabeth de la Trinité à sa prieure, Mère Germaine. Quel que soit notre état de vie, que nous soyons célibataires, que nous soyons mariés, que nous soyons consacrés, nous sommes tous appelés à être aimés par notre Seigneur et plus exactement à se laisser aimer par lui, les deux. Et c'est un enjeu dans notre prière. Car Dieu nous aime, mais son amour ne va pas venir me transformer ou transformer ma vie malgré moi. Il attend dans ma prière que je me découvre à lui tel que je suis, ou tel avec la conscience que j'ai de moi-même. Bien souvent, quand on va à la prière, on veut y aller avec le meilleur visage de nous-mêmes, avec le meilleur de nous-mêmes. Mais Jésus attend qu'on aille à lui également avec le pire de nous-mêmes, qu'on aille à lui avec nos zones d'ombre. C'est ce que fait d'ailleurs sainte Élisabeth dans la Trinité, de la Trinité. Je la recite, vous avez cette citation à la page 18. Elle se met en prière et alors, je vois mon néant, ma misère, mon impuissance. Je m'aperçois incapable de progrès, de persévérance. Je vois la multitude de mes négligences, de mes défauts. Je m'apparais dans mon indigence, je me prosterne dans ma misère, reconnaissant ma détresse. Je l'étale devant la miséricorde de mon maître. C'est un réflexe que nous n'avons pas. Et c'est un réflexe que Dieu nous invite à avoir, étaler devant lui notre misère, pour qu'il laisse déborder en nous ces flots de tendresse infinie. Celui qui laisse aimer, Jésus l'aimer au sein de sa prière, verra l'Esprit Saint remplir son cœur d'eau vive. Selon la promesse de Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jean 7, 38. Alors quand nous sommes en prière, quand nous sommes en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on pose notre regard sur lui, alors on découvre combien son regard est doux, humble, et combien devant ce regard doux et humble, nous sommes tout l'inverse. Nous sommes faibles, petits, nous voulons faire le bien, mais nous chutons sans arrêt, et sans rendre compte, et même quelque chose qui peut nous arriver de très bien, nous dit sainte Thérèse d'Avila. À la page 16, dans le livre du château intérieur, donc en page 16, elle nous dit « En regardant sa grandeur, à lui, Jésus-Christ, nous arrivons à notre bassesse, et en regardant sa pureté, nous verrons notre saleté. En considérant son humilité, à lui, nous verrons combien nous sommes loin d'être humbles. » Quand on fait cette expérience, quand dans la prière, de manière confuse, on se sent quand même assez petit, assez démuni, c'est bon signe. C'est signe que l'Esprit-Saint travaille en nous. Et c'est bon signe parce qu'on laisse la grandeur de Dieu exercer sa puissance en nos vies. Prenons un exemple, Saint-Joseph. Saint-Joseph, lui qui avait beaucoup stimulé sainte Thérèse d'Avila. Voilà ce qu'elle nous écrit à son sujet. Il est avantageux de se recommander à ce glorieux patriarche et de l'honorer d'un culte particulier. Les personnes de raison, surtout, devraient toujours l'aimer avec une tendresse filiale. Je ne comprends pas comment on ne peut penser à la reine des anges et à tout ce qu'elle essuya de tribulation durant le bas âge du divin enfant Jésus, sans remercier Saint Joseph du dévouement si parfait avec lequel il vint au secours de l'un et de l'autre. Que celui qui ne trouve personne pour lui enseigner l'oraison choisisse cet admirable saint pour maître, il n'aura pas à craindre de s'égarer sous sa conduite. Remarquons, frères et sœurs, que Saint Joseph se tenait constamment en la compagnie de Jésus et de Marie. Il était constamment sous leurs yeux, lui qui était quand même un grand saint, mais pécheur également. Et devant l'éclat immaculé de la sainteté de Jésus et de Marie, il aurait pu prendre peur, prendre la fuite, comme tant de personnes peuvent en avoir le réflexe. Pensons à Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils commettent le péché originel, première action, c'est de s'enfuir par peur, de se cacher du regard de Dieu. Nous, dans la prière, il faut que nous exercions à faire l'inverse. Je sais que je suis pécheur, mais c'est justement pour ça que je viens en prière. Je sais que je suis pécheur, c'est justement pour ça que je vais au sacrement de réconciliation. Je sais que je suis pécheur, c'est justement pour ça que j'ai besoin de communier. Et si j'ai commis de gros péchés, après m'être confessé, etc. Saint Joseph s'appuyait sur le regard de Jésus et de Marie et il n'était pas dans l'auto-auscultation, dans l'auto-introspection un peu trop intempestive dont nous parlions ce matin. Et c'est la raison pour laquelle il est bien cet homme juste, selon l'expression de l'Évangile et selon la théologie de saint Paul dans ses épîtres. Pour s'en convaincre davantage, osons un troisième exemple. Dans l'Évangile selon saint Luc, vous l'avez à la page 16, Jésus dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. » Ah, c'est très bien, Jésus nous enseigne quelque chose sur la prière. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Moi, je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Et Jésus de conclure, « Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. » Pourquoi ? Eh bien parce que ce collecteur d'impôts, collabo, s'enrichissant sur le dos des autres, osait se montrer tel qu'il était devant Dieu. « Mon Dieu, aie pitié du collabo que je suis. Je sais, je m'en mets plein les poches. » Je fais plus que ce que l'occupant me demande, j'ai tendance à avoir de la condescendance pour mes compatriotes que je méprise au passage, je t'expose ma vie telle qu'elle est. Et alors, Dieu, voyant un cœur ouvert, un cœur pécheur certes, mais un cœur ouvert, peut y faire engouffrer l'Esprit Saint qui nous nettoie de nos péchés. Le pharisien, lui, dans l'optique inverse. Moi, je connais la loi, regarde ce que je fais de bien, tu vois. Moi, je ne suis pas voleur, je ne suis pas injuste. Moi, je verse le dixième de tout ce que je gagne. Moi, je jeûne. En fait, je suis en train de te présenter un CV. Voici mon curriculum vitae, vois comme je suis bien. Remarquez au passage que le pharisien ne demande rien à Dieu. Le pharisien ne cherche pas une relation vivante avec son Seigneur. Le pharisien cherche à se justifier. Le pharisien n'ouvre pas son cœur. Et Dieu ne va pas venir par infraction dans nos vies. Dieu ne peut rien faire pour lui. Alors que, à vue humaine, ce pharisien pouvait apparaître comme étant un modèle, mais pas aux yeux de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes. Alors, découvrir notre faiblesse, notre amour propre, c'est ce qui peut nous arriver de mieux selon l'expérience de Thérèse d'Avila. Plus nous reconnaîtrons que nous sommes faibles à faire le bien, plus nous entrerons dans notre prière avec cette reconnaissance que ma vie n'est pas parfaite, mais c'est comme ça que je viens à toi, Seigneur, et plus le Seigneur pourra agir. Vous le savez, Jésus n'est pas venu pour des bien portants, mais pour des pécheurs. Pour les malades que nous sommes. Et cela doit se traduire, y compris dans notre prière. C'est là encore la considération dont Thérèse d'Avila nous parlait ce matin. Considérons qui nous sommes, nous, pour nous tenir devant Dieu. Je suis indigne de paraître devant toi, Seigneur, mais c'est justement pour ça que je viens. Parce que si je suis indigne de me présenter devant toi, il est digne de ton amour de m'accueillir tel que je suis. Comme nous l'avons vu ce matin, lors de la messe avec cet évangile du Fils prodigue accueilli à bras ouverts par Dieu le Père. Ou bien, une deuxième omission, et c'est pour ça que ma prière cloche, est celle où je privilégie le sentiment, le ressenti à la foi. Il est bon, nous dit Thérèse, dans le livre de la vie, page 14, il est bon de réfléchir quelque temps, d'approfondir les douleurs que notre Seigneur a supportées dans ce mystère et le motif qui les fit endurer, d'imaginer qui est celui qui a souffert et avec quel amour. Mais il ne faut pas se fatiguer sans relâche à creuser ce sujet. Il faut aussi se tenir auprès du Seigneur dans le silence de l'intelligence, si possible, qu'elle s'occupe à regarder celui qui nous regarde. S'occuper de regarder celui qui nous regarde. Voici une autre définition de la prière. Tenons-lui compagnie, parlons-lui, adressons-lui nos demandes et réjouissons-nous d'être en sa présence. Remarquons que dans cette longue citation de Thérèse, il ne lui vient même pas à l'idée, à l'esprit, qu'il serait bon de ressentir quelque chose au sein de la prière. Le ressenti n'est jamais un thermomètre de notre vie spirituelle. Nous sommes habitués à ressentir des choses bonnes ou moins bonnes. Nous sommes habitués à être sensibilisés à ceci et à cela, et il est normal que, dans un premier temps, quand on se met à prier, on fasse de notre ressenti une sorte d'évaluation pour savoir si ma prière a été bonne ou bien si elle ne l'a été pas. J'ai ressenti de la ferveur en moi, ma prière était bonne. J'ai rien ressenti, il y a quelque chose qui cloche. Mais en fait, non. Pas spécialement. le ressenti n'est pas ce qui va me dire si je me laisse aimer par Dieu et si j'aime Dieu dans ma prière. Pas du tout. Parce que l'amour est bien plus fort qu'un ressenti. Je me rappelle cette anecdote d'un jeune homme et d'une jeune femme que j'avais reçue au couvent. Bon, je le connaissais surtout lui, donc il me présentait sa fiancée. Et alors, il est parti. C'était très beau à voir, c'était très émouvant. Vous savez, frère Cyril, elle n'est pas comme les autres. C'est la plus belle femme du monde. Si elle devait s'exiler à la Havane, je boirais l'océan à la petite paille, je la rejoindrais à pied. Alors, c'était vraiment très beau. Quoi. Là, j'étais prêt à sortir le mouchoir. Quoi. Et elle de lui répondre, « Ah oui, bah, commence par ramasser tes chaussettes sales. » Le bon sens féminin qui a parlé. Et elle a raison. Les bons sentiments, c'est bien. Mais l'amour se prouve en acte. Dans ma prière, je ne serai pas, quand je paraîtrai devant mon Seigneur, le Seigneur Jésus ne me demandera pas si dans ma vie sur terre, j'ai senti de grands élans, de grands sentiments. Il me demandera, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai aimé ou pas? Donc, si dans ma prière, je ne ressens rien de particulier, ça ne veut pas dire qu'elle soit spécialement mauvaise. Imaginons-nous être simplement avec lui, comme Marie restant à ses pieds. Je reprends ce passage des Vosgiles que nous avons déjà évoqué ce matin. Marie, quand elle est assise aux pieds de Jésus, pendant que Marthe fait le service, qui vous dit que Marie ressent des grandes choses? Elle écoute, elle est là, comme disciple devant son Seigneur, mais elle n'est peut-être pas en extase à être au plafond ou autre. Soyons comme Marie, soyons les yeux dans les yeux avec notre Seigneur, le cœur dans le cœur, et peut-être qu'on ne ressentira rien, mais ce n'est pas pour autant que ce ne sera pas vrai. Alors un jour, une carmélite demandait à Sainte Thérèse d'Avila, « Et si tout cela n'était que de l'imagination ?» Je me tiens devant Jésus, j'aime lui tenir compagnie, je ne ressens pas grand-chose de particulier, peut-être que tout ça, ma mère, c'est de l'imagination. Et Sainte Thérèse aura cette remarque géniale de lui dire, mais de lui répondre, mais tout ce que vous pourriez imaginer sera toujours en deçà de la réalité, en deçà de l'amour réel de Dieu pour vous. Donc allez-y, ne vous bridez pas. Ne bridez pas votre imagination dans votre prière. L'imagination est une force. Si l'imagination n'était qu'un poids, le Seigneur ne nous l'aurait pas donné. Mais notre Seigneur nous a donné la faculté de l'imagination pour qu'on en puisse, entre autres, s'appuyer sur elle dans l'oraison. Bien sûr, me tenir au pied de Jésus comme Marie, être à ses côtés comme les trois apôtres qui dormaient près de Jésus au jardin des Oliviers, c'est de l'imagination. Mais le fait de rechercher sa compagnie et le fait d'être en compagnie de Jésus est plus vrai que ce que je peux imaginer. Donc, ne nous bridons pas. Alors justement, nous parlons d'imagination. Peut-être que, au contraire, mon imagination part dans tous les sens. Voilà une vérité que nous expérimentons dans notre vie de prière. Je suis assis sur mon petit banc, je suis assis tout court, à la chapelle, dans mon coin de prière ou autre, et je suis distrait et j'arrête pas de faire défiler des scénarios dans ma petite tête. Cette épreuve, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, cette épreuve ayant été tellement pénible pour moi, j'imagine qu'elle le sera également pour vous. Voilà pourquoi je vous en parle. Et elle ajoute, nous endurons de terribles épreuves parce que nous ne nous comprenons pas. De là proviennent les afflictions dans lesquelles tombent beaucoup de personnes qui s'occupent d'oraison. Elles tombent dans la mélancolie, elles en perdent la santé, elles arrivent même jusqu'à tout abandonner. Il est donc essentiel, frères et sœurs, pour en sortir, de ne pas être troublé, de ne pas être découragé, mais d'avoir quelques clés pour nous aider. La difficulté la plus courante est celle de mon imagination qui part dans tous les sens. Où est le bon recueillement? Est-ce que je suis vraiment en prière alors que mon esprit court partout comme un cheval fou? Eh bien, sainte Thérèse, là aussi, forte de son expérience, nous répond, vous avez la citation à la page 16, « Pour moi, j'ai grandement souffert parfois de ces divagations d'esprit, et il n'y a guère plus de 4 ans que j'ai compris, par mon expérience personnelle, que la pensée, ou, précise Thérèse, pour qu'on l'en comprenne mieux, l'imagination, n'est pas la même chose que l'entendement, que l'intelligence, que le raisonnement. Je consultai un savant, et il me dit que c'était vrai. Cette réponse ne fut pas une petite consolation pour moi. » Et alors elle continue, « Le parti auquel j'ai fini par m'arrêter, après bien des années de souffrance, et de ne pas faire plus de cas de l'imagination que d'une folle, et de l'abandonner à sa marotte. Supportons-la donc avec patience. » Pesons le poids de cette affirmation, le poids de cette conclusion de Thérèse, qui pendant des années, s'est tourmentée à vouloir une prière qui soit parfaite. Une prière où il n'y a rien d'autre qui vienne parasiter, si je puis dire cela, mon recueillement ou autre. Thérèse nous dit simplement, c'est pas possible. L'imagination, elle tourne tout le temps. Il n'y avait pas les avancées médicales que nous connaissons aujourd'hui à l'époque de Thérèse, mais vous le savez peut-être, notre imagination, notre cerveau tourne tout le temps, même quand on dort, même quand on est dans le coma. Alors imaginez, pourquoi s'arrêterait-il ? Pourquoi s'arrêterait-elle pendant la prière ? Pour Thérèse, la question ce n'est pas « est-ce que j'ai l'imagination qui tourne en boucle ou pas ?» La question c'est « est-ce que je fais une fixation sur mon imagination ou pas ?» Elle est là la question. Et la retombée est très importante. La première conclusion, nous l'avons entendue de Thérèse, c'est que premièrement, l'imagination c'est une folle, je l'abandonne à ma marotte, elle ne sera jamais véritablement un grand obstacle à ma prière. Elle ne sera jamais véritablement un obstacle tout court à ma prière. Ce qui me perturbe, et ça c'est la deuxième conclusion de sainte Thérèse, c'est si je fais une fixation sur elle. Voilà, je me tiens en prière, je suis très fervent, alors là je ressens des choses, je suis très content, et puis j'ai la tête qui commence à tourner dans tous les sens. Je me vois être quelqu'un à grande responsabilité, je protège héroïquement ma femme et mes enfants devant un grand danger. Et puis là, je me rends compte, je me dis, ah, c'est pas vrai. Et hop, je reviens devant le regard de Jésus. Et tout de suite après, pouf, je reviens avec ma femme et mes enfants, je suis le super héros, j'ai sauvé tout le monde, le quartier aussi, la ville entière. Et là, je me dis, c'est pas vrai. Non. Thérèse nous dit, premièrement, de ne pas s'étonner que notre imagination trotte comme un cheval sauvage. Si je commence à m'en plaindre, à moi-même ou à Dieu, je quitte le Seigneur du regard, je quitte mon recueillement pour m'axer sur moi-même, pour me recroqueviller sur moi-même. C'est pas bon. Or, nous dit Thérèse de Lisieux, Dieu sait bien de quoi nous sommes pétris, c'est lui qui nous a créés. Ne soyons pas nostalgiques d'une prière qui n'a jamais existé, une prière où je ne penserai à rien d'autre qu'à Dieu, où tout serait parfait. Ce genre de prière parfaite, que Thérèse appelait l'oraison d'union, ne dure jamais plus d'un quart d'heure. C'est Thérèse elle-même qui le disait. Donc vous voyez, quelqu'un qui est saint, en l'occurrence sainte, une grande sainte, une des plus grandes saintes que l'Église connaisse, une spécialiste de l'oraison, ne vivait pas une oraison sans aucune interférence pendant plus d'un quart d'heure. Alors pourquoi il en serait différemment de vous et de moi? Notre imagination tourne, laissons-la tourner, ne faisons pas une fixation sur elle. Par contre, si ces distractions persistent et deviennent trop envahissantes, c'est le signe que, probablement, mon esprit demande légitimement à être occupé. Et là, si on a bien entendu ce que nous évoquions ce matin, j'ai à portée de main la Bible, le texte du jour de la messe, un livre spirituel ou autre. Et donc là, j'hésite pas à reprendre ce texte de la Bible ou ce texte spirituel et à le lire. Ça va occuper mon esprit qui progressivement va retrouver son recueillement. Et je vais revenir à mon recueillement. Mon imagination m'a alerté sur le fait que, ben, dans ce cas-là, mon esprit avait besoin d'avoir de la nourriture pour se retrouver en recueillement. Ou bien, mon esprit va pouvoir se recueillir. Alors, si j'ai oublié, par exemple, d'avoir un texte à portée de main, eh ben, je peux avoir une prière toute faite, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur », que je vais me répéter en boucle, ou une autre prière. Il est bon d'anticiper, puis de se poser la question par avance, avant d'entrer en oraison, avant de prier, au fait, est-ce que j'ai une prière rustine de ce genre-là? Une petite prière que je pourrais me répéter en boucle si mon esprit a besoin d'être occupé. Trouvons notre prière. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur, ça peut être la prière de l'ange enseignée à Fatima. Seigneur, je crois, j'espère et j'adore, et je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas et qui n'espèrent pas. Ça peut être une autre prière encore. À vous de trouver, à nous de trouver ce qui nous convient. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ça peut être une autre prière également, etc. Mon premier point, ne pas m'étonner que mon imagination tourne tout le temps. C'est normal, je suis faible. Mon imagination me sert pour entrer en oraison, mais elle a tendance à vadrouiller toute seule par elle-même. Je la laisse à sa marotte. Deuxième point, si elle est trop envahissante et que je fais vraiment une trop grande fixation sur elle, si je n'arrive pas à me détacher de mon cinéma intérieur, c'est que mon esprit a besoin d'être nourri, d'être rappelé à l'ordre, et donc là je lui donne de la nourriture, un texte biblique ou une prière que je me répète mentalement. Troisième point, dédramatiser. Encore une fois, notre imagination ne sera jamais un très grand obstacle à notre prière. Et c'est Thérèse elle-même qui nous le dit. L'absence de sincérité, comme celle du pharisien qui se présente au temple en présentant son curriculum vitae, l'absence de sincérité est bien plus gênante pour le travail de la grâce, pour le travail de l'Esprit-Saint au sein de notre prière. Un jour, un jeune me disait, oh, j'ai vécu une drôle d'expérience. J'étais en train de prier, je venais juste de commencer à prier, oh, puis je me suis rendu compte que c'était le début du match de football. Oh, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter, puis je me suis dit non quand même, je me tiens à mon quart d'heure de prière, le match va durer plus qu'un quart d'heure, donc je reste là par amour du Seigneur. Et donc je suis resté là. Mais alors, je pensais à ce match, les joueurs, où est-ce qu'ils en étaient, le score, etc., qui avait le ballon, et ça n'arrêtait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dédramatisé, il a fini par dire au Seigneur, « Seigneur, je te donne tous les dingues de football comme moi, et notamment ceux qui n'arrivent pas à se détacher du football, comme moi j'essaie de m'en détacher. » Et en fait, ça l'a ramené à sa prière. Ça l'a détaché de son football. Alors bien sûr, le quart d'heure passé, vous savez ce qui s'est passé, il était devant son écran, mais il a tenu son quart d'heure. Et il en était très heureux. Très heureux, non pas parce que j'y suis arrivé, il s'est affirmé, c'était quelqu'un de bien, mais parce qu'en fait, c'était une belle preuve d'amour qu'il a donné au Seigneur, et le Seigneur le lui a rendu. Donc, voilà, n'hésitons pas, quand on a des difficultés, à utiliser notre imagination pour utiliser ces difficultés et les retourner comme une crêpe. L'Esprit Saint nous donnera de savoir comment faire. Comme ce match de football. J'arrive pas à m'en passer, je te présente tous les jeunes comme moi qui n'arrivent pas à s'en passer. Et ça a suffi. Bon, alors c'est bien tout ça, mais la sécheresse. Voilà. Je viens à la prière, mais je suis sec. Alors, contrairement à la distraction ou à l'imagination, la sécheresse se différencie de cela qu'elle s'accompagne, elle, de tristesse, d'impuissance, de diminution de notre ferveur ou de l'ardeur de notre esprit. Elle s'accompagne habituellement également d'agitation, voire d'énervement. Je ne tiens pas en place. Quelle heure il est ? Oh, ça fait que 5 minutes. Puis ça m'énerve. Puis attends, vraiment, non, là, je suis vraiment sec. Eh bien, là, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que c'est le signe d'un travail de Dieu plus intense en soi. Mes sens spirituels sont émoussés. Et tout le travail de la prière et de la réception des sacrements va nous aider à retrouver nos sens spirituels. Et parfois, dans notre prière, alors ce n'est pas vraiment de la sécheresse, mais ça peut en prendre la forme, Dieu est justement en train de nous nourrir plus profondément, de dilater notre cœur, et on ne s'en rend pas compte dans un premier temps. On n'a plus cette ferveur qu'on avait jusque-là, on ne ressent plus rien, mais c'est justement parce que le Seigneur nous travaille plus intensément de l'intérieur. Et Saint Jean de la Croix va nous expliquer cela avec l'image des enfants d'Israël qui quittèrent l'Égypte, les petits oignons d'Égypte, les plats savoureux qu'ils avaient lorsqu'ils étaient au service de Pharaon, et qui vont se retrouver en chemin vers la terre promise, et le chemin par la terre promise va passer par le désert, où ils vont avoir simplement de la manne à manger. Voilà ce que dit Saint Jean de la Croix, c'est à la page 18, dans le livre de la nuit obscure. Ceux que Dieu commence à conduire par ses solitudes du désert ressemblent aux enfants d'Israël, lesquels, aussitôt que Dieu, dans le désert, eut commencé à leur donner cette viande du ciel, qui avait en soi toutes les saveurs. Elles avaient le goût que chacun voulait. Ils regrettaient toutefois les goûts et les saveurs des viandes et des petits oignons qu'ils avaient mangés en Égypte, à cause de leur palais qui n'était pas accoutumé. Ils pleuraient et gémissaient la perte des chairs parmi les viandes célestes. Car la bassesse de notre appétit en vient à tel point qu'elle nous fait désirer nos misères et avoir en dégoût le bien incommunicable du ciel. Mais, comme je dis, quand ces sécheresses viennent de la voie purgative de l'esprit sensible, encore qu'au commencement l'esprit ne sente pas de saveur, néanmoins, il sent du courage et de la force. Donc en fait, tout va bien, mais on a l'impression que tout va mal. Tout va bien parce que le travail de la grâce est plus intense en moi, mais comme cette grâce est spirituelle, et que je suis encore assez charnel, je ne m'en rends pas compte dans un premier temps. Alors, pour vous donner une image, imaginez, vous avez l'habitude de prendre un verre de vin tous les jours à votre repas de midi. Bon, à 20 tables, hein, quoi, hein, très bien. Et puis un jour, votre épouse ne vous a pas prévenu, ou votre époux ne vous a pas prévenu, et puis sur la table, vous avez un vin, alors un grand cru à 2000 ou 3000 euros la bouteille, vraiment un cru excellent. Elle vous verse le vin dans le verre, très bien, et vous allez boire votre verre comme d'habitude. Connaissez-vous le réflexe que vous allez avoir ? Eh bien, vous allez recracher le vin. Jusqu'à présent, vous aviez eu du vin qu'on pouvait boire à grande gorgée. Et là, vous avez un vin tellement fin, tellement délicat, tellement chargé d'arômes subtils que ça ne passe pas, vous allez le recracher. Je ne vous demande pas de faire l'expérience. Mais c'est tellement surprenant que le premier réflexe, et bien c'est ce qui se passe parfois dans notre prière. Le vin de la grâce est devenu subitement si délicat que je ne m'en rends pas compte et qu'au contraire, j'ai une sorte d'abjection. Mais comme mon palais va s'habituer, j'ai recraché mon premier verre, il y a encore du vin dans la bouteille, du vin exquis, le deuxième verre, puis le troisième verre, à un moment donné, mon palais va s'habituer, et non seulement j'apprécierai vraiment ce bon vin, mais si on me proposait de retourner en arrière, le vin bien sensible de table, alors là je dirais non, quoi. Plutôt mourir que de quitter ce vin exquis pour revenir à ce vin de table habituel. Donc, tout va bien, mais on n'est pas habitué. Et ça peut être un peu déroutant. Déroutant, d'ailleurs, c'est l'expérience qu'avait fait un de nos frères Carmes des Trois-Rivières, au Québec. Il avait pris la voiture du couvent, et il avait un long trajet à faire en s'enfonçant à l'intérieur des terres canadiennes. Donc le couvent, il est plutôt du côté de l'océan Atlantique, et lui, il avait 500 km à faire en forêt canadienne. Alors vous savez, ce sont les grandes highways, là, les grandes voies toutes droites, et il met le GPS, il ne savait pas très bien où aller. Et donc le GPS le guide. Prochain rond-point, deuxième à droite, au stop à gauche, etc. Machin. Il sort vraiment du monde habité, il commence à s'engager dans les grandes forêts canadiennes, et là le GPS lui dit à un moment donné, dans 400 km, tournez à droite. Et pendant 400 km, rien. Deux ou trois fois, il s'est arrêté, il a éteint le GPS, puis il a remis le GPS pour que le GPS lui redise, dans 298 km, tournez à droite. Mais en fait, il était sur la bonne voie, et le GPS ne disait rien, justement parce qu'il était sur la bonne voie. Et bien dans notre prière, il en va de même. Attention à ne pas vouloir sentir à chaque fois de la grande ferveur, parce que ce n'est pas la grande ferveur qui va me dire vraiment si je suis sur la bonne voie ou pas. Peut-être d'ailleurs que vous en avez fait l'expérience, en tout cas moi ça m'arrive quand même de le faire. Je suis en train de prier le petit matin, je suis en oraison, je suis très fervent. Ah Seigneur, pour toi, j'accepterai d'être missionnaire en Chine, je mourrai martyr, j'évangéliserai sur les plateaux télé, je me laisserai décapiter au fin fond de l'Amazonie pour témoigner de toi, etc. Machin. Ah, vraiment un fervent. Je me lève, je claque la porte de mon appartement, je vais sur le chemin du travail, je croise un voisin, puis je dis bonjour. Et lui, il a passé peut-être une mauvaise nuit ou autre, avec une tête comme ça, me dit Et ah, je me dis mais quel celui-là. Et voilà. Ma ferveur du matin où j'étais prêt à me laisser guillotiner par amour de Jésus n'a pas été capable de supporter cette petite contrariété. Ce n'est pas la ferveur qui m'avait dit là vraiment que j'étais avancé dans la vie spirituelle. Alors quand nous nous retrouvons dans une situation de ce type, que nous ne ressentons plus grand-chose dans notre prière, courage, nous dit Thérèse d'Avila. L'âme privée de consolation, je la cite, qu'elle ne se décourage pas, qu'elle n'abandonne pas l'oraison et continue à faire ce que font les autres, c'est-à-dire à prier de manière régulière. Voulez-vous, mes filles, page 18, voulez-vous, mes filles, connaître votre degré d'avancement ? Que chacune de vous examine si elle se considère comme la plus méprisable de toutes. Voilà le véritable critère à quoi on reconnaît si nous sommes avancés ou pas, si la prière nourrit notre esprit et notre âme, ou pas. L'humilité. Est-ce que je ressors de ma prière plus paisible, plus humble, moins irritable que d'habitude? Alors c'est que le signe que l'Esprit Saint, qu'un esprit de douceur et de paix, un esprit de miséricorde et de réconfort, m'a bien travaillé. Mais peut-être que je suis sec, parce qu'au contraire, il y a là un appel à revoir quelque chose dans notre vie. Là, je peux traverser une difficulté dans l'oraison à cause de moi, c'est de ma faute. Une certaine tiédeur dans ma vie chrétienne, un certain relâchement, ou bien un manque de nourriture spirituelle. Alors, il est bon de s'interroger en vérité. Est-ce que dans ma vie, ça introduit quelque chose de nouveau, de perturbant, qui vient perturber ma prière ou pas? Est-ce que dans ma vie, voilà, je délaisse les sacrements et puis ma prière, ben, je prie maintenant plus de manière aussi régulière qu'auparavant? Posons-nous ce genre de questions quand on est sec dans la prière. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir ou pas? Est-ce que aussi je nourris ma prière avec cette fréquentation des Écritures ou pas? Le plus souvent, quand on ressent de l'ennui, du vide dans notre oraison, notre conscience et notre raison finissent par en comprendre, par en connaître la raison. Donc, interrogeons-nous. Peut-être me rendrai-je compte que ma sécheresse est due à une indisposition temporaire. Il s'agit d'une mélancolie, d'une dépression ou autre, avec parfois un véritable combat à mener pour ne pas me replier sur moi-même, mais pour au contraire aller à la pêche aux guérisons, à la pêche aux solutions. Vous comprenez bien que si nous venons de vivre une humiliation, par exemple, la prière qui suit sera un combat sur fond d'un certain abattement de cœur, un certain découragement. C'est humain. Dans pareille situation, je suis en prière, je suis sec, le mieux est de ne pas chercher un refuge dans l'imagination. Il est bon de s'ouvrir à un accompagnateur spirituel, à défaut d'en parler à un prêtre ou bien à une personne expérimentée. Et enfin, il est toujours bon de présenter notre difficulté au Seigneur lui-même, qui est là et qui est bel et bien là, malgré l'ennui ou malgré la sécheresse. Troisième hypothèse dans ma sécheresse, c'est que peut-être qu'une preuve d'amour m'est demandée. Jusque-là, j'avais une prière avec beaucoup de consolation, beaucoup de ferveur ressentie, puis à un moment donné, je n'ai plus rien dans ma prière, alors que tout va bien, ma vie n'a pas changé. Eh bien, quand une personne expérimente de grandes grâces sensibles dans sa prière, qu'elle reconnaisse, c'est sainte Thérèse qui parle, que c'est de lui, Jésus, qu'elle reçoit cette faveur, qu'elle soit heureuse d'en jouir, mais qu'elle ne cherche pas à savoir comment elle en jouit, ni même connaître ce dont elle jouit. Et voilà le problème qui peut advenir. Nous sommes assez spontanément tentés de chercher à nous garantir cette ferveur intérieure, ce ressenti intérieur. Mais si je vais dans ma prière en me demandant par avance, j'espère que je vais être aussi fervent qu'hier ou que ce matin, j'espère que je vais ressentir toujours la même chose, vous comprenez bien que là, malgré moi, je commence subrepticement à me détourner de Dieu pour chercher non plus Dieu, mais ma consolation, moi-même, mon ego. Je vais chercher plutôt des sucreries spirituelles plutôt que Dieu lui-même. Une fois, un séminariste interrogeait un autre séminariste. Il lui disait « aujourd'hui j'ai bien prié, je me tais très fervent, ça faisait longtemps, comment faire pour que cette ferveur soit toujours là ?» Et son ami de séminaire de lui répondre « Si tu veux continuer à garder cette ferveur en toi, le mieux soit d'être prêt, soit d'être prêt à ne plus en bénéficier. » Et il avait raison, c'est paradoxal, mais il avait raison. Si je suis prêt à prier, quel que soit ce que je vais ressentir ou pas, c'est bon signe. Si je suis prêt à prier en recherchant, en me disant que ce serait bien que je ressente des choses, ça l'est un peu moins. Surtout que sainte Thérèse d'Avila avait bien remarqué que parfois le Seigneur accorde de grandes grâces sensibles dans la prière à certaines personnes, non pas parce qu'elles sont avancées spirituellement, mais parce qu'au contraire, elles en ont besoin pour être encouragées et que si elles n'avaient pas ces ferveurs sensibles, elles risqueraient de tout abandonner. Or, Dieu fait tout pour que nous soyons sauvés et que nous soyons rapatriés dans la maison du Père éternel à jamais. Il est des âmes, nous dit sainte Thérèse, page 18, il est des âmes que Dieu sait pouvoir gagner au moyen de ses faveurs. Il les voit livrées à de grands égarements, mais il ne veut rien négliger pour les ramener à lui. Elles sont en mauvais état, dépourvues de vertu. Et cependant, il leur donne des goûts, des consolations, de tendres sentiments qui commencent à exciter leurs désirs. Remarquons, elles sont en mauvais état. Et pourtant, elles bénéficient de ces grâces que n'ont pas certaines personnes qui sont, elles, beaucoup plus avancées, beaucoup plus solides également. Donc, encore une fois, ne faisons pas de ces ferveurs un indice et ne les recherchons pas pour elles-mêmes. Si on les a, nous dit Thérèse, très bien. Réjouissons-nous-en, très très bien. Si on ne les a pas, si on ne les a pas ou si on ne les a plus, ne gémissons pas. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Une autre difficulté dans la prière peut être un tourment intérieur. Ma chair me tourmente. Par exemple, j'ai été blessé. Je me tiens en prière et quelque chose d'inattendu advient. Mon cœur, voire mon corps, m'informe que j'ai été touché, que j'ai été blessé au cours de la journée, par exemple. Je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'avais minimisé la situation, parce que j'avais beaucoup de tâches à faire et je n'y ai pas prêté attention. J'ai été dans un certain déni. Par exemple, une parole blessante qui m'a été adressée au cours de mon travail, alors que j'étais bien occupé, et je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et puis vient le moment de la prière, et au moment de la prière, je suis seul face à Dieu, je suis seul face à moi. Et c'est là où le cœur m'a fait remonter des informations à laquelle je ne m'attendais pas forcément, un petit peu comme une bulle d'eau qui remonte du fond de l'océan, du fond de l'eau, et qui revient à la surface. Ça peut être une blessure, ça peut être une mélancolie, ça peut être une tension intérieure, ça peut être une agitation. Ça peut être également l'action du démon qui me souffle sa mauvaise haleine. Le démon est toujours là, non pas pour créer des situations ou des tentations, mais le démon est toujours là pour les accentuer. Le démon ne crée rien, il n'est pas créateur, mais il accentue le focus sur des situations. J'étais au travail, le patron m'a dit « Mais alors, ce dossier X, là, ça traîne, ça fait 2 jours que je te l'ai demandé. » Il m'a dit ça alors qu'il m'a donné 18 dossiers à traiter, je suis submergé, je ne sais pas comment faire, en plus je suis le seul au bureau ou presque à travailler. Et puis là, il vient pleurer en me disant « Alors ce dossier X, il traîne. » Et là, j'ai le démon qui vient me susurrer à l'oreille. « Vas-y, j'ai dit, mais c'est 4 vérités, il l'a bien mérité, et puis il faut quand même que la vérité advienne, ça lui fera du bien. » Voilà. Et donc là, dans ma prière, je ne m'étais pas rendu compte combien cette parole m'avait heurté, mais non seulement je me rends compte que ma parole m'avait heurté, et même, que j'en ai conscience ou pas, le démon est là, me susurre à l'oreille pour monter en épingle cette situation et me faire perdre davantage encore cette paix intérieure. Sainte Thérèse l'a vécu, Sainte Thérèse d'Avila, dans le livre de la vie, par exemple, où elle écrit « Le démon me tentait tout particulièrement pendant la semaine sainte. Il vient tout à coup assaillir mon raisonnement, mon entendement, mon intelligence, parfois si frivole, que j'en rirais dans d'autres circonstances. » Parce qu'elle avait bien remarqué, Sainte Thérèse, que le démon montait tout en épingle. Peut-être que mon patron, il n'était pas dans ses baskets ce jour-là, il était lui-même stressé, il avait oublié le nombre de dossiers qu'il m'avait donné. Donc tout ça, ce sera bon peut-être à lui redire, mais c'est bon aussi pour calmer la situation et revoir les choses à leur juste place. Ou bien je suis en prière, mon ange gardien est à mes côtés, et puis le démon vient puis me dit « Tu prieras demain, t'as pas le temps là. Non mais t'es fatigué, là, prends une bonne nuit. Non, tu prieras demain. Regarde toutes les choses que t'as à faire, en plus t'es indispensable. Quoi. Non, vas-y, non, la prière, t'as perdu de temps. Vas-y. » Voilà, on a un combat à mener sur la question de la régularité et sur la question de bien croire que la Providence nous guide et que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, comme nous le rappelle saint Paul. Alors que faire quand on est justement tourmenté dans notre prière? Le péché originel a créé en l'homme, en nous, un désordre et on n'y échappe pas, au sein même de la prière. Parce que, nous dit Jésus, l'esprit est ardent mais la chair est faible. Faible, inconstante, désorganisée. Et Thérèse d'Avila le disait elle-même. Je ne puis oublier le préjudice que nous a causé le péché de nos premiers parents. C'est lui, ce me semble, qui rend nos facultés incapables de jouir d'un si grand bien d'une façon complète. Mes péchés personnels doivent aussi y contribuer. Parfois aussi ma mauvaise santé y contribue pour beaucoup. N'oublions pas que notre prière est incarnée. Une meilleure santé, un changement d'heure pour prier, une meilleure hygiène de vie peuvent être des remèdes utiles pour mieux prier. Surtout quand on est régulièrement exposé à la tentation. Je vais avoir l'envie de rejouer la scène que j'ai vécue, de placer une réplique cinglante pour réfuter mon patron, j'ai rien contre les patrons, hein, ou une autre personne. Alors, trois pistes. La première, comme pour l'imagination, je ne m'étonne pas de ma faiblesse, de ma chute, je dédramatise. Je ne suis pas un pur esprit. Deuxième piste, ne pas chercher à cacher au Seigneur les tentations qui m'assaillent. Parce que là aussi, si je lui cache, je fais comme Adam et Ève et ça n'apporte jamais rien de bon quand ils se cachent du regard du Seigneur. Alors que le Seigneur, lui, nous a dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Ces tentations sont autant de fardeaux du cœur dont se charge le Seigneur, et de son côté, lui, il œuvre en notre cœur pour tout prendre et faire en sorte que progressivement, il n'y ait plus de nouveaux fardeaux naissants. Et enfin, on peut utiliser ces tentations avec humour, ça peut être aidant. Parce que l'humour, ne serait-ce que cela, nous aide à dédramatiser. Alors, par exemple, un jeune garçon alors me disait que dans sa prière, il s'était rendu compte qu'un de ses collègues avait été très désagréable avec lui ce jour-là. Il ne comprenait pas pourquoi. D'habitude, ça marchait bien. Il travaillait en binôme, il travaille toujours en binôme. Et donc, bah, il s'est refait le film, il s'est imaginé donner une bonne réplique, sortir la tête haute de leur échauffourée, etc. Mais ça ne le laissait pas en paix. Donc, il était toujours en prière, ça continuait à cogiter. Et puis, à un moment donné, il a utilisé l'humour pour tout désarmer. Il s'est dit, je pense que sa copine a ses règles. Voilà, il est passé à autre chose, quoi. Bon, c'est pas très... Mais, donc, utilisons l'humour pour dédramatiser et tout replacer à une place qui pourra nous aider à mieux trouver, nous retrouver dans la prière. Bon, excusez-moi, j'étais un peu plus long que ce que je n'aurais dû, mais je crois que c'est l'heure des questions-réponses, c'est ça? Alors, suite à ce que nous avons vu ce matin et puis là, en début d'après-midi, nous avons un petit temps d'échange avec, je crois, un micro, même deux micro-baladeurs. Alors, n'hésitez pas, la parole est à vous si vous avez une question. Alors, en général, la première question est toujours la plus difficile à poser. Alors, je propose de passer directement à la deuxième.
Comme il faut que quelqu'un commence, je commence. Moi, ma question est, quel est l'objectif réel, profond, palpable de l'oraison? J'ai bien une petite idée quand, plus toute jeune, j'ai eu le temps de prier. Voilà, j'aimerais bien entendre ce que vous avez à nous dire là-dessus, s'il vous plaît.
Oui, alors merci beaucoup. En fait, vous anticipez déjà sur le troisième topo, donc c'est très bien, je vous laisserai le faire. Merci beaucoup. Alors, pour le dire d'un mot quand même, pour faire droit à votre question qui est tout à fait légitime et qui est vraiment bonne, la relation doit aboutir à l'union. Le but de l'oraison, c'est l'union à Dieu. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être uni à Dieu. Alors, appelez ça comme vous voulez. Union à Dieu, sainteté, divinisation, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est le but de la vie chrétienne. C'est le but premier, il n'y a pas plus élevé, et c'est à la volonté de Dieu lui-même. Jésus nous le dit en Matthieu 6, « Vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Ou bien, dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, « Soyez saints, comme moi, Dieu, je suis saint. » Nous sommes enfants de Dieu et le but de l'oraison, allié à la vie sacramentelle et à la vie de foi chrétienne dans sa globalité, c'est de nous conduire à cette sainteté, c'est de nous conduire à retrouver cette identité d'enfant de Dieu. Je suis appelé à être comme Dieu. Mais pas par mes propres forces, par la grâce de Dieu. Oui ?
Est-ce que j'ai le droit à une deuxième question ? J'en profite parce qu'après,
oui,
tout le monde en a deux ou trois. Donc, l'union à Dieu, si longtemps vers l'union à Dieu, est-ce qu'il faut comprendre aussi, entendre que pendant notre pèlerinage sur cette terre, ça doit nous ouvrir à nos frères ? Parce que là, on travaille pour notre salut. L'union à Dieu, c'est notre salut, n'est-ce pas ? Moi, je l'entends ainsi, mais peut-être que vous allez corriger. Et donc, concrètement, est-ce que c'est effectivement l'amour que l'on doit avoir envers nos frères, à l'instar du Christ, bien sûr, mais qui doit être à la fois un amour d'acceptation, mais en même temps un amour lucide. Oui, je mélange peut-être beaucoup de choses, mais enfin, dans ma tête, c'est clair, mais c'est le mettre en mots qui est plus complexe.
Oui.
Donc, premièrement, le salut, et puis concrètement, la pratique, on va dire. Puisque quand on arrivera là-haut, si j'ai bien compris aussi, on va nous demander « qu'as-tu fait de ton frère ?»
Alors, « qu'as-tu fait de ton frère ?» ou selon l'expression très, très connue de Saint Jean de la Croix, « au soir de cette vie, vous serez examinés sur l'amour. » Dieu ne va pas me demander, moi, au frère Cyril, quand je passerai de ce monde à l'autre, « alors, ta masse de raison, là, t'as fait combien là ?» 32 000 heures de raison dans ta vie, c'est pas mal quand même. Bon, t'auras que 3 ans de purgatoire. Il ne va pas me demander si j'ai fait oraison pendant un tel package. Il va me demander si je me suis laissé aimer et si j'ai aimé mon prochain en retour. Parce que aimer Dieu et aimer son prochain, c'est semblable. Thérèse d'Avila est très claire dessus. Je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas, c'est Saint Jean dans ses lettres, sans aimer mon frère que lui je vois. Les deux commandements sont semblables, nous rappelle Jésus, ils commencent de la même manière. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Dieu est amour, et si je suis enfant de Dieu, je suis un enfant de l'amour, appelé à me laisser aimer et à aimer à mon tour. Je ne peux pas être uni à Dieu sans aimer les autres. C'est juste pas possible. De la même manière que vous ne pouvez pas allumer un feu, un briquet, une allumette, un feu de cheminée, sans que ce feu éclaire. C'est pas possible. Eh bien, pour nous, c'est pareil. L'oraison est un stimulant dans notre vie spirituelle, notamment dans cette recherche d'union à Dieu, et il est impossible que Dieu rayonne en nous sans que, par ricochet, Dieu, par notre intermédiaire, ne vienne rayonner sur les autres. Si je me laisse aimer par Dieu, j'ai envie d'aimer à mon tour. J'allais dire, c'est mathématique, c'est affreux. C'est pas que j'aime pas les mathématiques, mais c'est la grâce, quoi. Prenez les enfants. Un enfant en bas âge qui est aimé, chéri de sa famille, sera un enfant aimant, sera un bon parent. Et malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Un enfant qui n'aura pas aimé deviendra facilement une terreur quand il sera plus grand. C'est normal. L'amour du prochain est inclus dans la prière d'oraison. Il est toujours bon dans la prière d'oraison d'avoir une intention apostolique, disait sainte Thérèse d'Avila, parce que si la prière d'oraison devient « mon Dieu, mon tout, le reste, je m'en fous », non, c'est pas Dieu ça. Là, je cherche une idole, je ne cherche pas Dieu lui-même. Je cherche Dieu qui est pur amour, et donc je dois, moi aussi, devenir aimant, puisque lui est aimant. Prenons un exemple. Jésus a dit, en Jean, chapitre 12, « Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et c'est ce qui se passe. Depuis que Jésus a été élevé sur la croix, c'est le plus grand et le meilleur aimant qui puisse exister. Aux deux sens du terme, aimant, celui qui aime, et puis aimant, vous savez, la ferraille métallique qui attire, qui aimante. Mais prenez un aimant qui attire, un gros aimant qui attire à lui une petite épingle, la petite épingle que je suis. La petite épingle, pouf, va être prise par l'aimant, se tenir contre ce grand aimant. Mais cette petite épingle, à force d'avoir été aimantée, Si vous la retirez, vous allez découvrir qu'elle est aimante à son tour. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Dans la prière de raison, dans l'union à Dieu, il en va de même. Je ne peux pas être attiré, être en compagnie du plus grand aimant qui puisse exister, sans devenir aimant moi aussi. Et Thérèse d'Avila va même jusqu'à dire, et elle a entièrement raison, que l'amour que j'ai pour Dieu se mesure à l'amour que j'ai pour mon prochain. On retombe sur ce que saint Jean dit dans ses lettres. Hein. Je veux savoir si j'aime Dieu, ben je me pose la question de savoir si j'aime mon prochain. Si je suis enclin à le servir, ou plutôt à être servi. Si je suis enclin à le servir, là ça veut dire que j'aime mon prochain et que j'aime Dieu. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un sans vouloir le servir. Je ne peux pas aimer mon épouse, si je suis appelé à la vie maritale, sans désirer qu'elle soit heureuse. Je ne peux pas aimer mes enfants sans désirer qu'ils soient protégés, sans désirer qu'ils aient la meilleure éducation possible, sans désirer qu'ils puissent faire leur vie telle qu'ils l'entendent. C'est ça, servir les autres. Par contre, si je commence à me dire « je vais avoir des enfants, c'est eux qui me paieront la retraite parce que je suis son parent », non. Voilà pour ces deux questions. Et merci beaucoup, ces deux questions très
intéressantes. J'en ai une dernière, si vous m'autorisez.
Allez, jamais 203.
C'est au propos du jugement. Moi, je comprends qu'il va y avoir deux jugements. Le premier, on meurt. Premier tri, le ciel, purgatoire, l'enfer. Et après, Dieu le Père viendra. Et là, apparaîtra, je ne sais pas comment dire, la miséricorde. Et de nouveau, il prendra une décision définitive. Est-ce bien cela ? Parce que pour moi, c'est très nébuleux, cette histoire.
Alors, on sort un petit peu du cadre. Je vais vous répondre, mais on va revenir sur le raison juste après. La théologie de l'Église catholique, qui est assez unanime sur ce point, nous dit qu'il y a deux jugements. Celui qu'on appelle le jugement particulier, qui a lieu à notre mort, et le jugement dernier. La différence entre les deux est très grande. Et la petite Thérèse de Lisieux, dans les carnets jaunes, l'avait bien remarqué. Le premier, c'est lorsque je décède. L'enjeu, c'est est-ce que je vais accepter d'être sauvé, d'être pardonné, ou est-ce que je vais rester dans un refus obstiné de la grâce miséricordieuse de Dieu ? Le jugement particulier me concerne moi. C'est pour ça qu'on parle de jugement particulier. Le jugement du particulier, si vous préférez. Donc voilà, je suis devant mon Sauveur, Jésus, qui me supplie, lui qui a tout fait pour me sauver, d'accepter de recevoir son salut. Et je vais accepter, je vais rentrer au ciel en ayant été lavé de tous mes péchés. Ou bien s'il y a des péchés auxquels je tiens absolument et que oh, pas touche, ben, je vais passer par ce qu'on appelle le purgatoire. Parce qu'il y a des péchés dont je voudrais me débarrasser par mes propres forces et non pas par la grâce de Dieu. Ou bien je vais, de manière mystérieuse, refuser obstinément de vivre une vie où j'aimerais les autres. Et je vais m'enfermer dans une situation malheureuse, ça s'appelle l'enfer. C'est le jugement particulier, le jugement individuel. Le jugement dernier aura lieu lorsque ce monde aura fini d'exister tel qu'il est, et que, comme dit Matthieu 25, Dieu, Jésus, réunira devant lui toutes les hommes et les femmes de toutes les générations. Il y aura absolument tout le monde devant lui. Et là, on ne va pas recommencer. Bon alors, vous êtes sûr, ceux qui seront sauvés, que vous allez être sauvés ou pas ? Non. Ce sera, comme dit Thérèse de Lisieux, et elle avait bien raison, et un des plus grands théologiens du XXe siècle, Hans Urs von Balthasar, a insisté dessus, le jugement dernier, on va se rendre compte de l'impact de nos prières, de notre amour sur les autres. Ce dont je ne connaissais pas jusque-là, même au jugement particulier. Le jugement particulier, c'est mon Dieu et moi, est-ce que je me laisse sauver par Dieu ? Le jugement dernier, c'est par rapport à mes frères. C'est pour ça que dans Matthieu 25, il n'y a que ça. J'étais nu, vous m'avez vêtu, ou bien j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, ou au contraire, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. On parle uniquement là des frères et sœurs. Qu'est-ce que j'ai fait de mon frère ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma sœur ? Et donc là, Thérèse de Lisieux nous dit, c'est là où on va s'émerveiller en voyant que la petite prière d'un berger aura entraîné la conversion d'un grand apôtre à l'autre bout du monde. Et ce grand apôtre n'en saura jamais rien, sauf au jugement dernier. Et il y aura énormément de joie de voir quelle aura été la répercussion de nos petits sacrifices, de nos petites prières, qu'on ne voit pas pour l'instant, mais que Dieu nous verra de voir en gros plan au jugement dernier. Donc le jugement dernier, c'est une énorme espérance pour tous les sauvés. C'est également au jugement dernier où on récupérera nos corps glorifiés. Voilà, fin de petite parenthèse théologique.
Merci beaucoup.
Revenons à l'oraison. Merci madame pour ces trois questions.
Je vais revenir, si vous le permettez, sur la prière, mais le jugement particulier, on ne sait pas le jugement particulier que la personne mourante a décidé, enfin a choisi. Est-ce que nos prières, nous, on prie pour les âmes du purgatoire, parce qu'on suppose que la personne va être au purgatoire, ou toutes les âmes du purgatoire, mais si elle a fait le choix de ne pas connaître l'amour de Dieu et l'amour des autres, est-ce que notre prière pour cette personne-là peut changer quelque chose ? Parce que là, la personne est en enfer, mais est-ce que nos prières peuvent encore agir sur lui pour qu'il passe éventuellement au purgatoire et qu'après, il voit l'amour de Dieu et arrive à avoir la miséricorde ?
Alors, il me semble que non. Notre prière peut aider les âmes du purgatoire, elles en sont demandeuses, elles sont très reconnaissantes, ces âmes du purgatoire, quand on prie pour elles, quand on fait des démarches d'indulgence en leur offrant cette indulgence. Et ce sont de grands intercesseurs, je ne sais pas comment on dit au féminin, pardon, ce sont de grands intercesseurs pour nous après au ciel. Par contre, une personne qui est damnée, j'ai envie de dire, c'est juste pas possible. Le problème, c'est pas la grâce de Dieu ou Dieu lui-même. Le problème, c'est que c'est la personne qui a catégoriquement refusé et qui restera dans un refus obstiné pour l'éternité. Saint John Henry Newman, qui vient d'être déclaré docteur de l'Église, en parle très bien. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a été déclaré docteur de l'Église. Saint John Henry Newman va jusqu'à poser cette question. Qu'est-ce qui serait pire que l'enfer pour une personne qui est en enfer ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui serait pire pour une personne en enfer que l'enfer ? Il y a quelque chose de pire que Dieu lui a évité par miséricorde. C'est de la plonger au paradis.
Il peut changer d'avis.
Si cette personne était plongée au paradis, elle se retrouverait, dit John Henry Newman, dans un mode de vie qu'elle a catégoriquement et absolument refusé et qui la rendrait folle au point d'une autodestruction complète. Et donc, elle se retrouve enfermée dans le style de vie qu'elle a toujours recherché et qu'elle n'aura jamais parce que ce n'est pas le style de vie qui la rendra heureuse. Jésus en parle dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. Quand Jésus dit qu'il y avait un Lazare qui festoyait, je crois que c'est Luc 17 ou Luc 18, qui faisait chaque jour de grands repas, et il y avait un pauvre nommé Lazare qui gisait à son portail tout couvert d'ulcères. Remarquons, c'est la seule fois ou quasiment où Jésus nomme quelqu'un au sein de ses paraboles. Lazare. Lazare, Eléazar, c'est de l'hébreu, c'est pas choisi au hasard. Ça veut dire Dieu aide. Lazare mourut et il fut emporté au ciel par les anges. Ou plus exactement, il a accepté que Dieu l'aide par l'intermédiaire des anges et le fasse entrer dans cette demeure éternelle ouverte, dont la porte a été ouverte par Jésus-Christ. Le pauvre mourut et il fut enseveli. Quand le riche mourut et il fut enseveli. C'est très intéressant. Il était en proie aux tourments. Et quels sont ces tourments ? Parce que ce sont ceux qu'il s'est donnés, pas ceux que Dieu lui a infligés. Parce que Jésus nous dit qu'il demande alors à ce que Lazare aille tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour lui rafraîchir la langue. C'est pathétique. Vous avez là un homme qui veut retrouver dans la vie d'après tous ses petits plaisirs terrestres qui étaient passagers et qui ne veut pas quitter. Il veut obstinément retrouver cela. Plutôt que de dire à Abraham, « Je t'en prie, je veux la miséricorde », il ne veut pas la miséricorde. Il veut retrouver ses gueuletons. Envoie Lazare, tu sais ce larbin, que je continue toujours à considérer comme un larbin, c'est moins que rien. Envoie-le tromper son doigt dans le bout dans de l'eau, au moins ça, puisque j'ai plus mes festins, parce que je veux quand même retrouver cette vie de festin que je n'ai plus aujourd'hui. Il ne veut pas en sortir. C'est ça qui est malheureux. Il ne veut pas en sortir, ce riche, de cet enfermement dans lequel il est. Bref, voilà, on a encore 2-3 minutes. Merci pour cette question. Toujours délicat de parler des fins dernières.
Oui. Est-ce que dans l'oraison, on peut être amené aussi à, dans certains cas, donc à consoler le cœur de Jésus, qui aujourd'hui est tellement ignoré, bafoué? Ou est-ce que c'est faut faire ça dans un autre moment? Et est-ce qu'il y a des temps liturgiques pour ça?
Alors le pape François écrit dans son encyclique « Il nous a aimés », sur le Sacré-Cœur, que la prière elle-même est une consolation pour le cœur de Jésus. Le simple fait de prier. Jésus est tellement assoiffé que nous allions à lui, que nous retrouvions la maison du Père, que le simple fait de tourner notre regard vers lui à travers la prière est en soi une consolation. Le pape François l'écrit noir sur blanc. Dans cette encyclique sur le Sacré-Cœur, il y a vraiment un très beau passage sur la consolation du cœur de Jésus. La réparation se comprend comme étant une consolation à offrir au cœur de Jésus. Et cette consolation, c'est de la considération. Plus je considérerai qui est mon Seigneur, plus je le consolerai. C'est tellement vrai que Thérèse de Lisieux, que le pape François cite abondamment, il cite d'ailleurs beaucoup de saints et de saintes français, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans cette encyclique sur le Sacré-Cœur, un petit cocorico au passage, Thérèse de Lisieux va jusqu'à écrire dans une lettre à Céline, je crois que c'est la lettre 191, « Céline, l'oubli, voilà ce qui me semble faire le plus de peine à Jésus. » L'oubli. Ce n'est pas le péché, parce que le péché, même le plus immonde, le plus grand qu'on ait pu commettre, Jésus l'a pardonné sur le bois de la croix. Non, ce qui fait le plus de peine à Jésus, ce n'est pas les péchés que je vais commettre, c'est l'oubli. Je ne m'intéresse pas, je suis indifférent, je vis comme s'il n'existait pas. Quoi que je fasse, ou au contraire je montre dans ma vie que je pense à lui, le console. Et dans ma prière, je peux très bien me tenir à ses côtés. C'est ce que faisait Thérèse d'Avila quand elle se tenait à côté de Jésus au Mont des Oliviers. Elle le consolait par sa prière, par sa solidarité, par sa reconnaissance. Et nous sommes appelés à consoler le cœur même de Jésus par le simple fait de prier. Le simple fait que vous soyez là pour avoir quelques petits repères, pour la prière, rien que ça console le cœur de Jésus. Un cœur qui est humain, nous rappelle le pape François dans son encyclique. Il est divin, mais humain. Il se laisse complètement toucher. Il est très sensible, beaucoup plus sensible que nous le pensons. Et le moindre fait et geste envers lui, il nous en est reconnaissant et il nous le rendra au centuple. Voilà, il est 15h15. Alors, il y a une dernière question. Bon, une toute dernière question. C'est comme au loto, il y a un complémentaire.
On parle beaucoup, et Thérèse d'Avila parle de l'oraison comme commerce d'amitié avec Jésus. Et je voulais demander quelle peut être la place de la relation avec Marie dans l'oraison, et en quoi, est-ce similaire ou un peu différent de la relation du commerce d'amitié avec Jésus.
Alors, vous avez 30 minutes ? Non, parce que quand on commence à me brancher sur la Vierge Marie, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Alors, je vais essayer de vous répondre très rapidement. J'aime beaucoup cette expression de Saint Louis-Marie-Grignion de Montfort qui compare Marie à l'aurore du salut. Alors, ce n'est pas de lui, cette comparaison. C'est déjà dans la litanie habituelle, traditionnelle de la Sainte Vierge, Marie, aurore du salut. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Marie, ce n'est pas le soleil qui est Jésus lui-même, mais elle est l'aurore qui précède le soleil. Et cette aurore lumineuse, quelle est cette lumière ? C'est celle qui vient du soleil. Donc je peux me tenir devant Marie, mais en Marie, c'est bien le soleil, c'est bien le Fils qu'elle a porté en elle-même qui rayonne. Alors, n'ayant pas peur de trop aimer la Vierge Marie, disait, conseillait la petite Thérèse, jamais on n'aimera assez. Donc on peut tout à fait se tenir devant la Vierge Marie. D'ailleurs, dans un chapelet, c'est ce qu'on fait, on se tient devant la Vierge Marie, et il est bon qu'il en soit ainsi. À chacun sa manière de faire. Merci. Alors, on a jusqu'à 16h pour une pause. Moi, je vais me tenir pour les confessions, pour des personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement de réconciliation à la sacristie.
Merci beaucoup, frère Cyril. Et puis donc, pour ceux qui le souhaitent, vous avez à l'accueil un petit goûter pour vous réconforter, même si c'est le carême. Et puis, il y a la possibilité donc d'échanger avec des sœurs. Alors, pas des échanges individuels parce que vous êtes trop nombreux, mais des échanges en petits groupes pour partager sur l'oraison. Donc, vous allez dans les parloirs. Donc, on commencera par le parloir du bas. Et puis, quand le parloir du bas est plein ou assez rempli, et s'il y a d'autres personnes, on monte à l'étage. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Et puis sinon, vous pouvez aussi tout simplement prendre le temps de respirer. Il y a un petit peu de soleil. Et on se retrouve à 16h pour la dernière conférence. 16h. Merci.